Bien, bonsoir, merci de, d'être venu. Plus près encore. voilà, je suis très heureuse et en même temps impressionnée de pouvoir m'atteler à ce thème avec vous. Parce que c'est pas un thème sur lequel je réfléchis directement dans mon travail de thèse en philosophie. Et en même temps, en tant que citoyenne, simplement, comme vous l'êtes ce soir aussi, je crois, à Racines et Chemins, c'était important pour moi de pouvoir y réfléchir. Et donc, on avait commencé à parler de Racines et Chemins avec Philippe sur le thème de l'éducation, qui était un thème possible pour cette année, et qui était plus inspirant pour moi. Et puis quand on m'a dit que c'était finalement les lois bioéthiques, j'ai un peu retourné ma veste. Et je me suis demandé comment la philosophie pouvait venir reposer au début de cette année de réflexion quelques thèmes, quelques questions de ce débat. Et c'est finalement plus des questions que j'ai envie de poser avec vous que de défendre une position, même si au bout de cet itinéraire que j'ai essayé de tracer, je me dis il y a certaines choses auxquelles je tiens vraiment dans ce débat et que je serais prête à confronter avec vous parce qu'il me semble que c'est aussi en échangeant de cette façon qu'on peut mieux comprendre et mieux se situer dans ces bas. Donc les vies savées sur la vie et la mort, impossible mais nécessaire. Et puis cette photo de l'Assemblée nationale avec le discours de Simone Veil pour défendre la loi qui dépénalise l'avortement et qui me semblait intéressante pour remettre en perspective ces lois bioéthiques. Mais au début de cette année 2018, se sont ouverts de nouveaux états généraux de bioéthique en vue de réexamen de la possible révision des lois bioéthiques qui ont été édictées en 2011. Et donc c'est cet événement de réexamen des lois bioéthiques qui vient questionner ici à plus d'un titre ce qu'on est appelé à se redemander qu'est-ce qu'on appelle exactement bioéthique, pourquoi des lois sont nécessaires dans ce domaine et pourquoi supposent-elles d'être non seulement largement débattu, mais aussi réexaminé régulièrement. Du coup, on peut passer, je vais prendre le rythme. Ça me semble important d'avoir quelques textes à suivre avec vous, donc on va essayer de bien se coordonner avec Benoît. Donc cette première question, pourquoi alors les lois bioéthiques font problème et posent autant de questions? Pourquoi elle suscite un débat où les arguments et les positions semblent souvent irréconciliables et semblent en même temps légitimes de part et d'autre? Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce nœud problématique qui fait débat? Et pourquoi il ne s'agit pas d'une simple opposition d'intérêts particuliers, comme on a pu le voir par exemple avec la manifestation des motards contre la loi de réduction de la vitesse? Même si, une fois que j'avais posé cet exemple, je me suis dit qu'en fait, au fond, ça serait peut-être intéressant d'aller creuser, même dans cette opposition d'intérêt particulier, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important. Mais en tout cas, dans la bioéthique, on voit directement qu'il y a un nœud beaucoup plus difficile à résoudre. Et que ce domaine, donc la bioéthique, semble d'emblée être un domaine le plus délicat, où ni le gouvernement, ni les assemblées législatives ne sont en mesure de prendre directement une décision, d'où l'organisation et la tenue d'états généraux qui convient tous les citoyens à réfléchir aux questions que soulève ce domaine et aux décisions que l'on va prendre quant à une possible législation. Alors pourquoi? Je me permettrai un bref rappel, deuxième petit clic, sur la bioéthique. Vous savez sans doute que bios en grec signifie vie et que l'éthique est cette discipline ou cette démarche qui interroge les conditions d'une bonne conduite, ou plutôt je préciserais d'une conduite bonne. On verra tout de suite pourquoi. Donc au premier abord, légiférer, c'est-à-dire décider ou produire des lois sur la vie et la mort, soit des lois qui réglementent quand et comment on peut ou doit donner la vie ou la mort, semble difficile, voire impossible ou illégitime. Donc cette opération de législation semble tout ça, difficile, impossible, voire légitime. Pourquoi? Eh bien parce qu'on toucherait à quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas des hommes et de leurs décisions, la vie et la mort, qui dépendrait peut-être plutôt de la nature ou de Dieu. Et la personne alors qui vit et meurt devient en un sens intouchable. qu'on ne doit pas enfreindre, détruire, détériorer, ni même déterminer sa vie. Et ici, il est intéressant de remarquer que intouchable ou inviolable, c'est la première signification de ce que l'on dit sacré, d'où la mobilisation de ce terme dans les débats de la bioéthique. Et que ce principe de sacré et d'inviolabilité est souvent évoqué dans ce débat, en lien avec celui qui est connexe de dignité de la personne. Donc la seule loi qui tienne serait alors l'interdit qu'exprime de manière fondamentale le commandement ou la première parole donnée à Moïse pour pouvoir ordonner la vie des hommes, et en l'occurrence des Hébreux, tu ne tueras point. Enfin, c'est pas la seule, mais en tout cas c'est une loi fondamentale qui manifeste cette inviolabilité du corps humain et de la vie humaine. Et pourtant, on voit tout de suite dans le débat que ceux qui sont favorables à la dépénalisation de certains actes qui touchent à la vie et à la mort, comme la procréation médicalement assistée, l'euthanasie ou la médecine prédictive, et puis bien d'autres lois qu'on pourra évoquer, font aussi référence à cette même exigence du respect de la dignité des personnes, qui sont alors seules à pouvoir décider de leur vie et de leur mort. Sauf que là tout de suite, on voit que la dignité n'est plus un principe absolu d'inviolabilité, mais le fait de rapporter cette décision de la vie et de la mort à la personne qui en l'occurrence détient la vie à mourir. De nouveau, il y a un problème de où se situe ce pouvoir. Donc la dignité des personnes et la valeur de la vie sont déterminées par la référence non plus à la nature ou à Dieu, mais par la référence à l'autonomie, ou on va pouvoir dire à la souveraineté de chacun. L'enjeu des lois ne semble plus consister à protéger la vie des personnes par un interdit portant sur l'acte, mais à défendre la liberté de choisir en mettant fin à un contrôle ou à une régulation étatique. On voit comment se noue le paradoxe. Il me semble qu'il y a une troisième difficulté qui intervient et qui rend périlleuse l'entreprise de législation sur la vie et la mort. Et cette difficulté, elle me semble à la fois plus subtile et en même temps plus générale en tant qu'elle concerne potentiellement toute loi. Il s'agit du statut universel des lois, qui entend déterminer ou du moins encadrer des pratiques et des exigences et des existences qui, elles, sont toujours singulières. Donc là, la difficulté, c'est plutôt comment on fait une loi qui vaut pour tous, alors qu'on voit bien qu'on a affaire à des situations singulières et extrêmement différentes. Donc comment établir une législation qui vaille dans ce contexte, et en sachant que chaque situation suppose en fait une nouvelle délibération, ce qui se fait déjà avec les comités d'éthique qui ont lieu dans plusieurs structures, à l'hôpital, dans les universités, etc. Et en même temps, c'est peut-être précisément parce que la délibération est à chaque fois à remettre dans les mains de personnes particulières qu'il nous faut un cadre. Donc on est de nouveau dans ce difficile équilibre qui rend cette opération de législation à la fois impossible ou délicate, et à la fois tout à fait nécessaire. Toujours dans cette introduction, je voulais ajouter trois remarques quant au rapport entre loi et détermination de la vie et de la mort, pour recontextualiser le débat, qui, à mes yeux, enfin, vous me direz comment vous le ressentez, mais me semble donner une forme de nouveauté à chaque fois à ces questions, alors que si on prend le temps de regarder un peu en arrière, on se rend compte, premièrement, que légiférer sur la vie et la mort, ou du moins fonder le gouvernement et la vie commune d'une société sur la possibilité de soutenir la vie des citoyens ou de leur donner la mort dans certains cas, n'est pas nouveau et a concerné tout gouvernement. Que ce soit en interdisant un interdit fondamental, tu ne tueras point au fondement des lois, ou en donnant la possibilité à un pouvoir souverain de tuer, pour punir, pour faire la guerre, etc. Et donc il est intéressant de constater que pour la vie des hommes, mais aussi celle des animaux, les lois encadrent plus les conditions de la mort qu'elles n'absolutisent l'interdit de tuer. Ou pareil, qu'elles ne sacralisent la naissance. Et de même, deuxième remarque, le système juridique comme le système moral ont toujours envisagé des morts légitimes, voire même valorisées. Que l'on pense à la légitime défense ou au sacrifice des martyrs, par exemple. Et à ce titre, je retiens une petite phrase d'un vieil ami, d'un ami vieux, qui me disait « Ce n'est pas la vie qui est sacrée, mais c'est la mort. » Et qui m'a donné à penser. Et qui me permet de reformuler la question « Dans quelles conditions allons-nous mourir ?» Or, il trouve que c'est cette question, plus précisément, que posent aussi beaucoup de penseurs dans l'Antiquité, pour qui la question de la vie bonne est directement liée à la bonne mort, à la belle mort. Donc, si les lois qu'on dit bioéthiques... c'est la troisième remarque. Si les lois qu'on dit bioéthiques semblent impliquer d'une manière particulière et décisive la vie, interroger le statut de la fonction de la loi peut faire prendre conscience du fait que toute loi potentiellement détermine la vie et la mort des citoyens. Donc bien sûr, il y a des lois qui semblent concerner plus directement la vie et la mort, mais si on réfléchit à quoi servent les lois, on voit qu'en fait toute loi concerne notre vie et notre mort potentiellement, mais en tout cas notre manière de vivre et notre manière de vivre ensemble. D'où nouveau petit clic. Le débat autour des lois pour nous. Nouveau petit clic pour conclure sur cette introduction. Le débat autour des lois bioéthiques implique que l'on élucide aussi bien le sens de la vie et de la mort que le statut et la fonction des lois, qui sont nécessaires à l'encadrement des conduites et des actes d'hommes qui vivent ensemble. Et donc c'est pour cela que je vous propose d'étudier trois questions successives. Première question, quel est le statut et la fonction des lois dans une société? Deuxième question, quelle est la spécificité des lois que l'on dit bioéthiques et qui concerne la vie même des individus? Et troisième question, notre implication citoyenne vis-à-vis des conduites et des actes portant sur la vie et la mort s'arrête-t-elle à la simple constitution des lois, donc à ce moment précis de la législation? Donc c'est les trois questions que je vous propose de suivre pour cet itinéraire ce soir. Mais avant, je voulais faire encore une toute petite précision, plutôt sur le point de vue que j'adopte ici, puisque lorsque Philippe m'a demandé d'intervenir, et lorsqu'il a voulu, avec l'équipe de Racine et Chemin, établir le programme, il m'a demandé « Mais d'où vas-tu parler ? De quel point de vue vas-tu parler ?» Ce qui était intéressant, à titre général, mais peut-être d'autant plus important sur ces questions de loi bioéthique, où dans le débat, on a besoin de savoir d'où parle chacun, puisque derrière chaque parole, il y a une autorité potentielle, ou en tout cas un point de vue auquel on va donner une légitimité, une autorité, selon la valeur qu'on donne à cette référence. Donc vous jugerez par vous-même de la valeur que vous donnez à la philosophie et de ma capacité à endosser ce point de vue, mais en tout cas c'est celui-là que je prends, celui de la philosophie. Au milieu de tout un panorama de personnages dans ce débat, les scientifiques, et notamment les sciences humaines, paradoxalement, plus que les sciences de la nature, au milieu des politiques qui se font porte-parole d'enjeux sociaux, collectifs, des religieux et théologiens que vous entendrez certainement et qui sont à la fois garants d'une discipline, donc de certaines connaissances sur l'homme, sur Dieu, et à la fois représentants de communautés d'individus qui partagent des convictions mais aussi des pratiques individuelles et collectives, au milieu aussi des associations et des groupes de militants, et enfin au milieu des citoyens qui regroupent toutes ces personnes en fait, c'est-à-dire tout un chacun qui est impliqué et concerné par ce débat. Donc je vous ai dit que je me situais du côté de la philosophie, et il me semble que c'est important là aussi de distinguer deux usages de la philosophie, soit la philosophie comme science humaine, qui énonce alors un type de connaissance sur l'homme, comme la psychologie ou la sociologie pourrait énoncer un autre type de connaissance sur l'homme, et qui propose alors, avec des textes, des auteurs, une certaine métaphysique, une certaine morale, une certaine politique, une certaine philosophie des sciences, ou en tout cas une pluralité de tout cela. Donc ça, c'est le premier usage de la philosophie, qu'on va aborder par certains auteurs et certains textes, mais moi, c'était plutôt le deuxième usage qui m'intéressait, c'est l'usage méthodologique. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la philosophie, des concepts qu'elle apporte, et des arguments qu'elle apporte aussi, pour mieux comprendre ce qui se joue dans ce débat. C'est-à-dire expliciter les concepts, les arguments qui sont utilisés par chacun des protagonistes. Et donc dans ce deuxième usage de la philosophie comme méthode, on constate trois rapports de la philosophie à la pratique. Le premier, c'est celui de l'éthique, qui nous intéresse particulièrement dans ce débat bioéthique. L'éthique, de nouveau, ça peut être une éthique particulière, fondée par des convictions, des connaissances, mais ça peut être là aussi une démarche qui consiste à énoncer ou à expliciter les valeurs et les présupposés qui sous-tendent chacun des choix. C'est-à-dire que l'éthique, elle ne va pas forcément dire qu'il faut faire ceci, mais elle va plutôt dire, sous cet argument, il y a telle et telle valeur, telle et telle présupposée qui implique telle et telle chose. Et donc en explicitant chacune des positions, elle permet de prendre un choix en conséquence. Deuxième rapport de la philosophie à la pratique, dans la philosophie politique cette fois, et qui consiste cette fois à interroger, comme nous allons le faire, la fonction de la loi, de l'application de la loi, etc. Et troisième rapport à la pratique, celui de la philosophie comme pratique de vie, comme pratique existentielle, qui là aussi concerne tout un chacun, et qui consiste pour nous à nous interroger sur ces questions qui se posent dans notre existence individuelle et collective. Donc voilà un peu mieux pour mon point de vue qui vous permet peut-être de mieux comprendre quelle va être la démarche, tout en mentionnant le fait, et ça vous le savez, que derrière la discipline, la philosophie, il y a la personne que je suis qui a une expérience et qui fait que je parle en tant que croyante, chrétienne, avec ma manière de comprendre les choses de ce côté-là, mon expérience avec ces différents thèmes de la bioéthique, et même si j'ai essayé d'aller chercher plusieurs exemples, parce que ça me semblait important d'aller étudier les lois bioéthiques qui sont proposées et qu'on voit moins sur le devant de la scène médiatique, c'est beaucoup la question de la fin de vie qui m'a interrogée. Et puis par le fait aussi que je suis engagée dans une association qui s'intéresse beaucoup à l'écologie et à la solidarité, qui fait que là aussi les questions bioéthiques prenaient une autre dimension. Je reviens à l'itinéraire en commençant par cette première question. Quel est le statut et la fonction des lois dans une société? Et je commence par un premier moment de définition pour comprendre ce qu'est une loi, en vous proposant de revenir à la définition que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 propose. Puisque dans le texte, au lieu de commencer, comme le ferait par exemple le dictionnaire, par le caractère obligatoire de la loi, la Déclaration de 1789 va s'inspirer, elle, de la philosophie politique de Rousseau, et va définir la loi comme, je cite et vous allez pouvoir le voir, l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire l'expression de la volonté du peuple, en tant que peuple constitué et uni pour vivre ensemble. Ça veut dire que cette vie commune des citoyens est ordonnée ou configurée durablement grâce à l'énoncé d'une volonté générale qui va se manifester dans différentes lois particulières. Cette volonté générale, le peuple lui donne force de loi et y obéit parce qu'il l'a lui-même décidé. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens qui s'accordent alors pour se donner des lois et remettre au gouvernement le pouvoir de les faire appliquer. En ce sens, la définition que Georges Burdeau, qui est un professeur de droit, donne dans l'Encyclopédie Universaliste, est elle aussi intéressante. Là aussi, on peut regarder la définition que Georges Burdeau donne de la loi. Il dit qu'elle est programmatique. En tant qu'elle manifeste un but propre à la société qui légifère, qu'elle énonce des obligations pour parvenir à ce but, et qu'elle présuppose une nature de l'homme. Et il me semble que c'est cette dimension programmatique de la loi que le Comité consultatif national d'éthique a mis en avant pour introduire les états généraux de bioéthique et ouvrir la plateforme du débat citoyen en posant la question « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Vous pouvez voir la page d'accueil de ce site sur lequel il était possible de participer à ce débat citoyen. Et donc la page d'accueil introduit directement cette question, quel monde voulons-nous pour demain? Donc ça veut dire qu'en déterminant ces lois bioéthiques, on est en train de déterminer de manière programmatique ce but vers lequel on vise et ces obligations que l'on se donne pour parvenir à ce but. Ça me semblait intéressant de faire ce lien. Car en effet, si les lois permettent d'envisager ensemble notre avenir commun, et qu'elles doivent être en ce sens l'expression de la volonté générale, il peut sembler pertinent de permettre aux citoyens de s'exprimer sur ce que les lois vont sanctionner et encadrer. Puisqu'on est tous embarqués dans cet avenir commun, il est utile et nécessaire que l'on contribue à la législation. Mais alors, il faut se demander en quoi consiste exactement cette volonté générale. Comment est-ce que les citoyens, en tant que peuple, participent à cette législation? Il est particulièrement important de s'arrêter sur ce terme de volonté générale, puisqu'on pourrait se méprendre sur son sens. C'est donc le deuxième moment de cette première interrogation sur les lois, où on va s'interroger sur cette volonté commune que l'on cherche à trouver au moment de légiférer. Car Rousseau insiste bien sur le fait que la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières. Attention, c'est ce que l'on pourrait croire. Mais c'est plutôt ce que chacun doit vouloir pour tous. Là aussi, on peut voir un nouveau texte de Rousseau qui dit ceci. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci, la volonté générale, ne regarde qu'à l'intérêt commun. Tandis que l'autre, la volonté de tous, regarde à l'intérêt privé et n'est qu'une somme des volontés particulières dans le contrat social. Il faut donc parvenir à discerner ce qui relève de l'intérêt particulier ou privé de ce qui relève de l'intérêt commun. Puisque seul le second, l'intérêt commun, peut faire l'objet d'une loi universelle qui s'appliquera à tous les citoyens. Très bien. Mais comment parvenir alors à discernement, puisque chacun de nous est inscrit dans une situation qui lui est propre, mue par un ensemble d'intérêts particuliers, de passions particulièrement vives, et sans doute loin de parvenir aussi facilement à la volonté générale. Par la délibération, concept que l'on aime bien dans notre société moderne, et qui se cache derrière ce terme de débat que nous propose le comité consultatif d'éthique. La délibération met en présence les différents choix possibles et nous permet donc de discerner parmi ces différents choix. On va faire un petit détour par Aristote, puisque Aristote définit la démocratie par la délibération commune des citoyens, où là aussi ce commun est intéressant, puisque la délibération commune des citoyens ne consiste de nouveau pas en cette confrontation des avis, encore moins une collecte des différents avis de chacun des citoyens, mais consiste à discerner ensemble quels sont les meilleurs choix que nous allons faire pour tous. C'est une première conception de la délibération. Et ce qui est intéressant, c'est que Aristote, on est parti chez Aristote, montre que ce discernement de ce qui est meilleur pour tous va apparaître comme la beauté apparaît parmi les corps. Donc cette comparaison est assez surprenante et en même temps assez intéressante, parce qu'elle montre qu'on a cette capacité ensemble à discerner ce qui va être le meilleur. Donc là aussi, je vous propose un petit texte que l'on voit précisément ce que propose Aristote. Il dit ceci, « La majorité en effet, dont chaque membre n'est pas un homme vertueux, peut cependant, par l'union de tous, être meilleur que cette élite, non pas individuellement mais collectivement. » Donc cette élite, ça serait un ensemble d'experts qui décideraient pour nous. Non, au contraire, Aristote, dans le modèle de la démocratie, dit « Même si on n'est pas tous vertueux, quand on s'y met tous ensemble, on peut délibérer et trouver quels sont les choix les meilleurs pour nous. » Et donc c'est sur cette vertu de la discussion et de la délibération commune que compte notre démocratie pour ouvrir ces états généraux de la bioéthique. Seulement, on revient à Rousseau. Petit aller-retour, Rousseau nous met en garde contre différents travers de la discussion ou de la communication entre les citoyens. Car ces travers risquent de détourner la volonté générale vers des volontés particulières de nouveau. Rousseau dit très bien, c'est très intéressant, cette délibération commune où on va chercher ensemble ce que l'on va choisir. Seulement, il y a un risque, c'est que parmi les citoyens se forment des corps intermédiaires, des associations, des communautés, où les citoyens vont se retrouver par petits groupes, ça facilite la communication, mais ça donne aussi un poids, une force à un regroupement de citoyens, qui vont du coup déséquilibrer la délibération qui était permise par le fait que chaque citoyen était égal par rapport aux autres. Et donc ce qui embête beaucoup Rousseau, c'est cette formation de corps intermédiaire entre le pouvoir souverain auquel on va remettre la possibilité de faire appliquer les lois et l'ensemble des citoyens. Je vous propose un nouveau texte du contrat social qui dit ceci: si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, donc ils ne formaient pas ces corps intermédiaires, du grand nombre des petites différences entre chacun des citoyens, résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne.
On est allé trop loin.
Et là, je sais plus. C'est pas grave. On va raccrocher les wagons avec la prochaine. En tout cas, si on en reste à cette délibération où chacun réfléchit en confort intérieur et de la même manière qu'il vote dans l'isoloir se prononce, les petites différences entre chacun des citoyens vont s'équilibrer. En revanche, quand il se forme des associations partielles, on a ce déséquilibre que je vous expliquais déjà. Donc à la fois ces associations sont intéressantes puisqu'elles font connaître et défendent un point de vue, et à la fois elles deviennent une force qui peut être dangereuse pour la délibération. Et donc là il me semblait que le rôle par exemple de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD que vous avez, dont vous avez sans doute entendu parler, était assez intéressante à ce propos, puisqu'elle avance tout un tas d'informations qui sont importantes à connaître et à comprendre, et en même temps, elle devient une vraie force dans le débat bioéthique et dans la décision auprès du gouvernement et de l'Assemblée. Donc à la fois, elle rend visible et à la fois, elle déséquilibre cette délibération. D'où l'importance de la délibération, de la deuxième conception de la délibération que propose Rousseau. C'était le premier travers, ces corps intermédiaires. Deuxième travers, c'était plutôt celui des passions ou des émotions. Et ça, il me semble qu'on le voit particulièrement sur la scène médiatique, qui dramatise à la fois le débat, en dramatisant l'opposition entre les différents protagonistes que j'évoquais, entre les différentes associations, communautés, les différentes prises de position, et en mettant en scène également la situation de certains individus, particulièrement émouvants et dramatiques, qui là aussi sont de nouveau très ambigus. Puisque le témoignage singulier et toutes les émotions que ça génère en nous va nous rendre sensibles à cette question, va nous permettre d'interroger ces situations et de chercher à mieux comprendre ce qui est en débat, et à la fois va nous solliciter quant à nos passions, à nos émotions, plutôt que de nous pousser à chercher à connaître raisonnablement et rationnellement cette volonté générale qui sera bonne pour tous. On l'entend là aussi dans l'étymologie, les passions ce sont d'abord ce que l'on subit, pas tout. Alors que l'organisation démocratique et la force donnée aux lois édictées par le peuple supposent, chez Rousseau, que ces lois soient fondées sur la raison. C'est l'un des enjeux majeurs du contrat social de Rousseau, que de trouver les moyens politiques et juridiques d'assurer cette rationalité de la loi, et donc de la volonté générale. Et en même temps, Rousseau est conscient au plus haut point de la difficulté de cette entreprise, puisqu'il exprime cette quasi-impossibilité pour les hommes de parvenir à des lois tout à fait justes, c'est-à-dire dénuées d'intérêts particuliers et de passion. D'où ce très beau texte du chapitre 7. Alors, voilà, celui-là, merci. Qui dit ceci: pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes et qui n'en éprouva aucune, qui n'eut aucun rapport avec notre nature, et qui la connaît pourtant à fond, dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant ont voulu bien s'occuper des autres. Il faudrait donc des dieux pour donner des lois aux hommes. Ainsi, l'on trouve à la fois dans l'ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles, une entreprise au-dessus de la force humaine, et pour l'exécuter, une autorité qui n'est rien. Donc on en est rendu à notre paradoxe de départ, et on est bien embêté sur comment légiférer sur ces questions qui ne pourraient être que l'œuvre de Dieu. Que Rousseau écarte, et qu'il va réutiliser cette force du point de vue divin, en sacralisant d'une certaine manière la loi, c'est-à-dire en lui donnant une force particulière, et en cherchant les moyens de parvenir au plus près à cette loi juste. Là, il me semblait qu'un petit retour et rappel historique était là aussi important pour comprendre d'où vient cette position de Rousseau qui fait suite à l'âge classique et aux penseurs tels que Hobbes et Spinoza qui ont cherché en pleine guerre de religion à assurer avant tout la stabilité de l'État et la sécurité des citoyens. Là où les différentes communautés religieuses, dans ce contexte de guerre des religions, donc les différents corps intermédiaires, étaient des formes de déstabilisation de l'État qui assurait cette sécurité. Et en même temps, en cherchant à fonder l'autorité des lois, non seulement sur l'accord des citoyens, mais aussi dans la rationalité de ces lois, donc dans cette sacralisation laïcisée de la loi, on risque aussi d'opprimer les individus, les citoyens, qui sont soumis à ces lois, forcés d'y obéir, et donc forcés d'être libres, selon cette formulation paradoxale de Rousseau, qui va très loin, puisqu'elle justifie en un certain sens la peine de mort, pour ceux qui seraient incapables d'obéir à ces lois déterminées par la volonté générale. Donc précisément, à quoi conduit cette loi? Que vise-t-elle finalement? C'est le dernier petit moment de cette partie sur la loi qui interroge la fonction même de la loi. Dans ce cas, donc, si on reste dans cette compréhension rousseauiste de la société et de l'utilité des lois pour la société, les lois assurent le contrat social fondamental. Rousseau imagine ce contrat social qui serait à l'origine de la société et qui expliquerait pourquoi les hommes se sont unis pour vivre ensemble. Ce contrat, Rousseau l'exprime ainsi dans le... Ah oui, c'était le petit 3. Voilà, il l'exprime ainsi toujours dans le contrat social. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc l'enjeu de s'associer, c'est de former une force commune avec la force de tous pour défendre et protéger tous les citoyens, permettre qu'ils poursuivent leur existence. Et que néanmoins, pouvant poursuivre leur existence grâce à cette force commune, ils restent chacun parfaitement libre. Donc là, l'attention s'est précisée, elle est entre sa capacité à poursuivre son existence dans la sécurité, tout en gardant cette liberté ou ce pouvoir citoyen de déterminer sa manière de vivre. Donc, la loi détermine la vie commune, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux, tout en définissant la liberté comme autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner des lois auxquelles on va obéir. Mais là, plusieurs questions se posent à propos de la pertinence de cette définition rousseauiste des lois que je vous ai proposée dans ce premier temps. La pertinence de cette conception, à la fois pour comprendre l'activité législative aujourd'hui, est-ce qu'il en est toujours ainsi, et plus particulièrement à propos des lois bioéthiques, qui concernent apparemment pas directement les rapports sociaux, mais de cette question particulière de la vie ou même du vivant. Je précise ces questions. Peut-on dire que notre société repose encore sur ce contrat implicite, selon lequel l'État et la force de l'Union assurent la sécurité des individus, c'est-à-dire leur permettre de poursuivre leur existence. Et deuxième question qui me semble importante, si la liberté est encore en jeu dans la détermination des lois, relève-t-elle de l'autonomie politique qui dépend de l'obéissance à des lois prescriptives? Ou bien a-t-on affaire ici à une autre conception de la liberté? Il me semble que plusieurs éléments viennent susciter ce questionnement. Premier élément, l'influence du libéralisme, qui redéfinit la liberté comme liberté individuelle, et redéfinit donc la loi, non plus comme loi prescriptive d'une certaine manière de vivre, mais comme loi qui autorise ou encadre ces libertés individuelles. Donc là, premier élément qui est historique et théorique, qui vient remanier cette compréhension de la liberté et du coup de la loi. Deuxième élément, qui est directement en lien avec ce premier élément, c'est la transformation du concept de souveraineté. La souveraineté, chez Rousseau, c'était la souveraineté du peuple, et donc de l'État auquel on remet cette force de permettre à tous de poursuivre son existence. Peu à peu, on voit que cette souveraineté va être déplacée vers l'individu. Et on va parler de souveraineté individuelle. Là aussi, on le retrouve dans le débat de bioéthique, on parle de la souveraineté de chacun quant à sa propre vie. Ce concept de souveraineté individuelle, il est particulièrement intéressant parce qu'il apparaît assez tôt dans les discours notamment de Kofi Annan à l'ONU. Et Kofi Annan va avoir recours à ce concept de souveraineté individuelle pour légitimer le fait d'intervenir dans un État qui est incapable de pallier à des conflits civils et de protéger la vie et les droits humains fondamentaux de ses propres citoyens, soit leur intégrité physique et morale. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit qu'en faisant appel à ce concept de souveraineté individuelle, l'ONU court-circuite le niveau étatique de la souveraineté. Et il va faire appel soit à la souveraineté individuelle, c'est-à-dire chaque individu qui est en péril dans son état et qu'il faut protéger, soit est lié à l'humanité, c'est-à-dire à des droits fondamentaux humains que l'on va défendre en court-circuitant ce niveau de souveraineté étatique. Donc là aussi, ce déplacement de la souveraineté, elle met à mal notre tentative d'établir des lois nationales sur un problème qui semble concerner soit les individus, soit l'humanité tout entière. Et en même temps qu'on a affaire à ce déplacement de souveraineté, on va avoir affaire aussi à une redéfinition de la souveraineté. Et cela, c'est plutôt le philosophe Foucault qui l'apporte, notamment dans son cours du 17 mars 1976 au Collège de France, en montrant comment on passe d'un gouvernement qui avait le pouvoir de tuer pour réprimer ou de laisser vivre, à un gouvernement qui entretient la vie ou laisse mourir. On va revenir sur cette conception, mais c'était simplement pour vous apporter des éléments de re-questionnement, de remaniement des concepts qu'on avait posés avec Rousseau quant à la loi. Tout ce que je viens de poser sur la loi reste important parce qu'on a encore affaire à cette société de citoyens qui souhaitent vivre ensemble. Et en même temps, il faut qu'on voit maintenant comment est-ce qu'on intègre tous ces déplacements pour comprendre comment aujourd'hui on peut légiférer sur ces questions particulières de la vie et de la mort. D'où ma deuxième question. Qui était celle-ci, je vous le rappelle, quelle est la spécificité des lois que l'on dit bioéthiques et qui concerne la vie même des individus. J'ai complètement perdu la notion du temps, du coup je viens de vous me disiez quelle heure il est.
Le bruit.
Très bien. Ça allait un peu plus vite désormais. Donc je vous ai rappelé que le fait que les lois et le pouvoir souverain ont toujours, en un sens, décidé de la vie et de la mort des individus. Pour la protéger, pour infliger la mort, ou du moins pour décider de ses conditions. Il en est de même pour le contrôle des naissances, la reconnaissance de les lois qui interdisent la dissection, etc. Donc il y a toujours eu ce questionnement. Mais donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et depuis les années 70, on va voir une spécificité à ce domaine que l'on dit bioéthique? Je reviens à la conception de Foucault, puisque Foucault vient à cette transformation du concept de souveraineté en tant qu'il voit apparaître ce qu'il appelle la bioéthique, la biopolitique, et qui peut éclairer notre questionnement sur la bioéthique. Pourquoi? Parce que ce que Foucault définit comme biopolitique, c'est le fait précisément que la politique, le gouvernement, va s'intéresser non plus à l'individu comme citoyen, mais aux hommes comme êtres vivants. Et comme êtres humains faisant partie de cette espèce humaine, de cette humanité. Mais avant tout, je voudrais revenir à cette étape de définition qui nous a été fort utile quant à la loi. On va s'y aller de la même manière pour la vie. Donc, premier petit moment de définition. Sur la vie, je vous rappelle simplement que chez les Grecs, on a en fait deux termes pour définir la vie. Zoé, qui concerne plutôt le vivant. Alors là aussi, je vous les ai écrits. Donc Zoé, qui concerne le vivant, c'est-à-dire ce qui a une existence, une configuration, et des propriétés telles qu'il vit et évolue de la naissance à la mort. Donc c'est la vie à laquelle s'intéresse par exemple la biologie, dont le nom est paradoxal, puisque bios, c'est l'autre terme pour désigner la vie, et qui concerne plus spécifiquement la vie des hommes, c'est-à-dire des êtres humains, et leur manière spécifique de vivre, qu'elle soit propre à un individu ou à un groupe. Ce qui a permis à des philosophes plus contemporains, comme Hannah Arendt ou Giorgio Agamben, de caractériser cette vie bios comme la vie politique et sociale des hommes. Et moi, je me permettrais d'élargir cette conception, puisqu'il me semble que dans cette vie bios s'intègre aussi toute la dimension psychologique et morale qui va nous intéresser dans la question bioéthique. Donc il me semble que la vie comme bios, elle se détermine plutôt par le fait qu'on va avoir un parcours de vie au sens d'une vie vécue et pas seulement au sens du vivant. En même temps, cette distinction, qui peut paraître paradoxale quand on pense à la biologie, mais aussi quand on pense à la bioéthique, qui s'intéresse aussi au vivant, cette distinction, elle permet de montrer les différents sens qu'on la vit, mais elle n'est pas à prendre au sens strict. Et donc il me semblait intéressant de détailler encore un peu plus ces différentes significations qu'on la vit, pour mieux comprendre ce qu'il y a en jeu dans la bioéthique. Et je vous proposerai plutôt 3, voire 4 ou 5 niveaux de signification, tout en sachant qu'une classification telle que je vous la propose n'est pas du tout absolue, mais cherche plutôt à nous faire réfléchir sur ce qui est en jeu. Donc premier niveau, la vie biologique ou le vivant. De l'homme, donc l'homme en tant qu'être vivant, le vivant en l'homme, puisqu'on va avoir des lois bioéthiques qui vont concerner l'utilisation des organes, des cellules souches, et puis la vie ou le vivant dans la nature, puisqu'on va avoir aussi des lois bioéthiques qui s'interrogent sur le rapport entre l'homme et la nature, c'est-à-dire le reste des entités vivantes. Deuxième niveau de signification, qui est en fait dépendant du premier, la vie de l'espèce humaine. Donc le vivant de l'homme, il dépend de la manière dont on définit l'espèce humaine. Troisième niveau, ou deuxième grand niveau, la vie personnelle, psychologique et morale, que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire la manière de vivre de chaque homme en tant que personne singulière. Donc là, on voit bien qu'on se déplace à un autre niveau de signification qui va impliquer une autre manière d'interroger la vie. Là aussi, on a un sous-niveau qui est celui de la vie sociale et politique, qui concerne de nouveau la manière de vivre, mais la manière de vivre des hommes en tant qu'ils vivent ensemble, au sein d'une société, d'une culture et d'une organisation politique, dont ils dessinent ensemble. Et enfin, dernier niveau de signification, celui de la vie comme santé. Et ce niveau-là, il m'a vraiment interpellée. Je ne sais pas si d'autres personnes le pensent de cette façon, mais c'est plutôt à force de lire ces différents positionnements dans le débat bioéthique que je me suis dit qu'il y a plein de moments où on parle de la vie, alors qu'en fait on est en train de parler de la santé. Et qu'on implique la médecine dans la bioéthique comme si elle était l'autorité appropriée pour parler de la vie. Et donc il me semble que peut-être que cette identification elle est légitime et intéressante à un moment donné, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus, il y a il y a tous ces autres niveaux de signification. Et donc pour ça, je pourrais m'arrêter sur ce dernier niveau qui m'a particulièrement intéressée et qui me semble en fait directement articulé à celui de la vie de l'espèce humaine, dont on a vu qu'elle était mobilisée par tous ces déplacements dont je vous ai parlé de la souveraineté, etc. Et donc ces deux niveaux de signification, l'espèce humaine et la vie comme santé, ils nous permettent de mieux comprendre ce que dit Foucault lorsqu'il dit qu'on passe à un gouvernement qui tâche de faire vivre. Non plus seulement protéger la vie, mais véritablement faire vivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, faire vivre? Deuxième moment de cette question sur la vie. Puisque justement, par rapport à ce que proposent les médias et la retransmission de débats bioéthiques où on va se concentrer sur des vies particulières, qui sont plus proches du niveau de signification comme vie vécue ou vie personnelle, Le débat concerne en fait peut-être beaucoup plus cette question de l'espèce humaine. C'est-à-dire la question fondamentale qui sous-tend, à mon sens, toutes les questions bioéthiques relatives à la recherche scientifique, concerne plutôt cette question, permettons-nous ou non de faire durer l'espèce humaine et comment. C'est-à-dire que derrière ces questions, et le fait qu'on cherche une volonté générale ou un avis qui vaille pour tous, il y a cette question plus fondamentale de est-ce qu'on va pouvoir faire durer l'espèce humaine et comment, c'est-à-dire dans quelles conditions. Parce que peut-être qu'on va pouvoir faire durer l'espèce humaine, mais de différentes façons, selon les lois dont on décide. Et on retrouve ici la dimension programmatique de la loi. Donc ici, petit aparté, il me semble que tous les récits de science-fiction peuvent être particulièrement intéressants pour contrebalancer cette mise en scène dramatique ou sensationnelle des vies singulières. En tant que la science-fiction, elle va elle aussi mobiliser les passions, l'imagination, qui certes est ambiguë en tant qu'elle nous détourne peut-être d'une rationalité plus prudente, et en même temps, elle peut nous permettre aussi de prendre conscience de l'importance de certaines lois qui au premier abord nous paraîtraient plus lointaines que les lois qui concernent la vie singulière, dont on se sent particulièrement proche. À une échelle intermédiaire, donc sans aller forcément jusqu'à l'espèce humaine, et sans en rester à la vie personnelle, Foucault pose la question de la population. Et c'est ça qui lui permet de définir la biopolitique. En montrant que la politique, telle qu'elle se redéfinit depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours, se constitue de techniques, de dispositifs, plus que d'un gouvernement constitué de lois, qui a affaire non plus au peuple et aux citoyens, mais à une population, c'est-à-dire à une masse d'individus, sur un territoire. Et qui, par cet ensemble de dispositifs et de technologies, va gouverner cette population, notamment par la médecine qui s'intéresse à l'hygiène publique. Et donc là, on voit aussi pourquoi la médecine est particulièrement présente dans le débat bioéthique, parce qu'en fait, elle a acquis un enjeu et une dimension politique majeure, par le fait que la politique s'intéresse à la population et à son devenir en tant qu'espèce humaine, plus qu'au peuple comme entité politique. J'espère que ça va. Je vous propose juste une petite conclusion pour qu'on sache où on en est, que vous puissiez la voir clairement. En disant ceci, on n'a plus affaire à un pouvoir protecteur de l'existence des citoyens au sein d'une société, mais on a affaire à un gouvernement régulateur de la vie des individus qui compose la population. Régulation, parce qu'on va s'appuyer sur des dispositifs, des technologies qui sont indexées à un certain nombre de normes qui se réfèrent à la santé, à la manière dont on va définir la santé. On revient à notre question de départ, qu'est-ce que ça veut dire faire vivre ? C'est le texte de Foucault qui dit ceci, « Je crois que justement, une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a consisté, je ne dis pas exactement à substituer, mais plutôt à compléter, ce vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un autre droit nouveau, qui ne va pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, et qui va être un droit, ou plutôt un pouvoir, exactement inverse. En quoi il consiste, ce nouveau pouvoir ? Pouvoir de faire vivre et de laisser mourir. Donc non plus faire mourir et laisser vivre, mais faire vivre et laisser mourir. Faire vivre revient donc à entretenir, voire à générer la vie, tout en la régulant par ses normes normalisatrices, plus que par des lois. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique une médicalisation de l'existence, qui suppose une prise en charge régulière des individus, en l'occurrence de leur corps et de leur esprit, par des instances, des structures particulières, qui prennent en charge ces vies vivantes humaines, mais qui sont aussi des instances de décision et d'information, d'information à double sens, qui informent la population, avec tout un tas d'enjeux politiques qui transfèrent par ce côté-là, et qui informe les politiques, puisque par cette consultation régulière des individus auprès de ces instances, entre autres médicales, on a accès à tout un tas d'informations qui concernent la vie intime, privée, corporelle, vivante des individus qui composent cette population. D'où l'importance, on le voit mieux, de toutes ces lois bioéthiques sur la gestion des informations dans les structures médicales notamment. Donc médicalisation de l'existence, un gouvernement qui se déploie par des structures de prise en charge, et un gouvernement qui mobilise des experts et praticiens qui ont une autorité par la place qu'on leur donne dans le débat et dans la société, mais surtout aussi dans leur pratique. Et là, on voit aussi comment le médecin prend une importance majeure dans ce débat et dans ses décisions particulières bioéthiques. Donc la structure politique plus classique, où on avait un gouvernement qui mettait en place des lois assumées par un peuple, est court-circuitée par ces dispositifs et technologies de régulation et de normalisation de la vie. Et en même temps, l'État, à l'échelle nationale, est lui-même dépassé, donc même si c'est lui en partie qui met en place ces dispositifs, il est lui-même dépassé à deux niveaux, on l'a vu, au niveau individuel par le fait que les individus reprennent en main leur propre pouvoir, en allant par exemple à l'étranger quand les lois de leur pays leur interdisent un certain nombre de démarches, d'actes, ou par le fait d'appartenir à des communautés religieuses, à des mouvements politiques qui développent tout un ensemble de pratiques alternatives qui peuvent être des voies parallèles à ces structures et à ces dispositifs gouvernementaux. Là, je ne l'ai pas encore vu, mais je souhaite vraiment le film My Lady qui est sorti. Je pense que c'est vraiment intéressant de le voir apparaître à ce moment-là, où il est question de la décision à prendre pour une jury quant à, au refus d'une, d'une perfusion sanguine d'un, d'un enfant qui fait partie de la communauté de, des témoins de Jéhovah. Ou bien, autre exemple, les communautés Baba Yaga, de femmes qui ont commencé à instaurer des modes de vie collaboratifs pour des femmes de plus en plus âgées. Donc on voit que ces communautés, ces lieux de vie commune, sont comme des alternatives, des lieux parallèles à ces dispositifs gouvernementaux. Donc, dépassement au niveau des individus, au niveau des communautés et associations auxquelles appartiennent ces individus, et dépassement encore au niveau des structures plus vastes que sont l'ONU par exemple, ou d'autres, ou l'Europe, qui elle aussi se prononce sur des lois bioéthiques qui ont une valeur universelle pour tous les hommes. Ok. Mais attention, néanmoins, Foucault ne dit pas que ces nouveaux modes de souveraineté remplacent la souveraineté classique que l'on a vue avec Rousseau, mais plutôt que les deux s'interpénètrent. Pourquoi ? Parce que l'enjeu des rapports sociaux, encadrés par des lois qui cherchent l'équité et la liberté des citoyens, demeure. D'où le débat que nous avons pour savoir quelles lois nous allons éditer sur notre territoire et pour notre peuple. Ce qui fait que nous restons chacun citoyen et qu'on en vient à des situations complexes et difficiles, comme celle du médecin de nouveau, qui est à la fois agent d'exécution de ces dispositifs de régulation et du traitement de la vie, et à la fois citoyen qui devient responsable de la mort d'un autre citoyen. Donc comment on fait pour assumer cette double casquette, qui n'est plus seulement à mon sens la double casquette d'un métier de la citoyenneté, qu'on retrouvait de toute façon dans le modèle classique, mais qui est aussi un conflit d'appartenance à deux types de souveraineté. Et je trouvais particulièrement intéressant tous les témoignages d'un médecin belge, Yves Deloge, qui a pris en charge beaucoup de Français qui voulaient avoir recours à l'euthanasie, et qui réinterrogeait cette responsabilité du médecin, mais aussi cette responsabilité des dispositifs médicaux et de prise en charge du vieillissement en France. Et on retrouve cette tension similaire entre souveraineté étatique et souveraineté individuelle dans cette tension entre la souveraineté classique et la souveraineté nouvelle telle que la définit Foucault dans la biopolitique. Du coup, ça me semblait intéressant de revenir plus précisément à cette question de la souveraineté individuelle, pour comprendre non plus qu'est-ce que c'est que faire vivre au niveau du gouvernement, mais qu'est-ce que c'est que décider de sa vie au niveau de l'individu. C'est le troisième petit moment de ce questionnement sur la vie. Donc décider de sa vie, c'est ce à quoi nous avons fait référence par ce concept de souveraineté individuelle ou de souveraineté sur soi-même, c'est une autre expression que l'on trouve, et qui fait référence à la revendication de l'autonomie, cette fois-ci personnelle plus que citoyenne. Vous vous rappelez qu'avec Rousseau, on a déjà parlé d'autonomie, qui consistait à se donner des lois à tous, auxquelles on allait tous obéir. Ici, l'autonomie, elle est personnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de se donner des lois à tous, mais de se donner des règles qui valent pour soi seul. Et donc de décider seul de la manière dont on va conduire sa vie au sein de la société. De déterminer seul de la manière dont on va mourir, de la manière dont on va faire l'usage de son corps, etc. Ce qui veut dire que la loi, face à cette revendication, ne prescrit plus, mais elle autorise et confirme les droits qui sont revendiqués. Or, les individus font référence dans ce cadre, on l'a dit dès l'introduction, au principe de dignité pour revendiquer cette autonomie, c'est-à-dire ce pouvoir de décider. Mais le principe de dignité, dans ce cas-là, n'est plus un principe absolu d'inviolabilité de la personne, mais il est un principe relatif au vécu de la personne, c'est-à-dire à sa vie personnelle, et à sa capacité de décider pour elle-même, c'est-à-dire en connaissance de cause, ce qu'elle fait de sa vie. En même temps, cette revendication d'une souveraineté, d'une dignité personnelle, elle me semble évidemment paradoxale, puisqu'elle conduit à une médicalisation de tous les actes de la vie, de tous les événements importants du vivant, et donc à une forme de dépossession de soi vis-à-vis de la médecine. Si je décide de ce que je fais de mon corps, il faut bien qu'à un moment donné, je m'en remette aux technologies et aux capacités qu'a la médecine. Et donc, je retombe dans cette dépossession de moi-même. Donc, cette tension entre souveraineté individuelle et dépossession de soi dans des dispositifs qui me dépassent me semblait intéressant pour nuancer ce principe de souveraineté individuelle. Deuxième problème face à cette revendication de droit et de souveraineté de chacun, c'est le fait que cette souveraineté individuelle, bien souvent, elle implique la responsabilité d'un autre. Je ne suis pas tout seul à porter cette responsabilité. Et c'est ce que souligne bien précisément Jean-Yves Goffi, qui est un philosophe qui a particulièrement pensé l'euthanasie, dans un livre éponyme, Penser l'euthanasie. Voilà, merci de l'avoir amené. Qui dit donc, dans une telle perspective, donc dans la perspective libérale qui soutient l'autonomie personnelle, il est tyrannique de limiter la liberté d'action d'un individu qui, agissant en toute connaissance de cause, ne fait aucun tort aux autres, même si l'on est persuadé qu'il s'en fait lui-même. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui choisirait rationnellement de se suicider. Et j'ai oublié de vous ajouter un petit morceau de phrase, mais qui est crucial, où Jean-Yves Goffi dit « Le problème, c'est qu'il y a une tierce personne qui est impliquée. » Donc, comment assumer cette responsabilité qui implique quelqu'un d'autre et qui, en plus, est extrêmement lourde à porter pour l'individu lui-même, qui, certes, peut être seul à décider, mais se retrouve, du coup, seul aussi à déterminer quelles sont les valeurs qui vont guider son choix. Et donc là, il me semblait intéressant pour contrebalancer la dimension politique de la souveraineté individuelle que nous avons expliquée, de faire référence aux sciences sociales, qui elles aussi font référence à ce principe de souveraineté individuelle. Avec un psychanalyste et sociologue, Alain Ehrenberg, qui fait référence à la souveraineté sur soi-même, mais pour en montrer la charge. Et il écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Qui est assez éloquent, me semble-t-il, pour montrer en quoi cette responsabilité de déterminer sa vie est en fait extrêmement lourde. Je crois que là aussi, je vous ai mis un petit extrait. Voilà, où Alain Ehrenberg montre comment la conséquence de cette nouvelle normativité, donc la normativité qui donne droit à la souveraineté individuelle, la responsabilité entière de nos vies se loge non seulement en chacun de nous, mais également dans l'entre-nous collectif. Donc responsabilité très, très lourde au niveau individuel, et l'entre-collectif, c'est la relation interpersonnelle de la tierce personne qui intervient pour aller au bout des actes que l'on pourrait vouloir poser. Donc les différents domaines supposent de prendre en compte différents niveaux de signification, d'intervention, et surtout différents lieux et types de pouvoir sur la vie et la mort. Et c'est ce à quoi je suis parvenue à force de suivre tous ces méandres à travers ces différentes significations de la vie et de ces différents usages de la loi, c'est que finalement, la question la plus décisive à mon sens dans ce débat, ce n'est pas tant peut-on décider de la vie, mais qui décide de la vie et de la mort ? Et avons-nous enfin un rôle encore à jouer? D'où le troisième moment de cette présentation qui sera beaucoup plus bref, mais qui me semblait important, où je propose, après ce moment extrêmement délicat de la législation, de m'intéresser à l'application de la loi, en me demandant si notre application citoyenne vis-à-vis des conduites et des actes portant sur la vie et la mort s'arrête à cette constitution des lois, ou si elle peut aller au-delà. Puisque, au terme de toutes ces réflexions, la seule position un peu ferme à laquelle je parviens concerne le pouvoir citoyen, c'est-à-dire notre capacité d'être acteur. Et il me semble qu'il est indispensable de préserver ce pouvoir, qui n'est ni celui de l'État régulateur, ni celui de l'individu souverain. Attention, on pourrait croire que notre pouvoir de citoyen, il est équivalent à notre pouvoir d'individu, mais ça me semble très important de réaffirmer un pouvoir citoyen qui ne s'identifie pas à la souveraineté individuelle. Et qui est en jeu, justement, dans les corps intermédiaires, les communautés, les associations qui constituent la société. Car certes, j'entends bien ce que dit Rousseau, ces corps intermédiaires peuvent être déstabilisants et risqués. Mais il me semble qu'ils sont risqués s'ils se cantonnent à être des instances doctrinales qui énonceraient des avis influençant une partie des citoyens de manière idéologique, c'est-à-dire sans permettre à ces citoyens de devenir autonomes. Mais il me semble que ces corps intermédiaires, ils peuvent être éminemment utiles lorsqu'ils deviennent eux-mêmes acteurs dans cette société, comme les communautés d'éthique, mais aussi les associations d'accompagnement des personnes, d'accompagnement au discernement, dans la mobilisation pour avoir de meilleurs soins palliatifs ou de meilleurs accompagnements des couples et des personnes malades. Et enfin, c'est un thème que je ne développerai pas, mais qui me semble tellement important et qu'on voit trop peu dans le débat sur la bioéthique, pour une meilleure prise en compte de l'écologie, qui est peut-être finalement bien plus au fondement de ce débat qu'on ne le croit, puisque régler certaines questions écologiques peut aussi régler certaines questions de maladie, de fertilité, qui amène à chercher toujours plus de technologies. Donc pour ce dernier moment sur notre possibilité de continuer à être acteur en tant que citoyen, je voulais revenir rapidement sur la loi Veil que j'ai évoquée avec la première photo, qui consistait à dépénaliser l'avortement. Pourquoi ça me semblait important? Pour insister sur le fait que la dépénalisation n'est pas la banalisation. Merci pour le titre. De même qu'il a été important de montrer que l'acte de mettre à mort n'est pas mauvais intrinsèquement, ou en tout cas de manière absolue dans le champ politique, de même, il est nécessaire de bien comprendre le rapport entre l'autorisation légale et la valeur éthique d'un acte. Ce n'est pas parce qu'on autorise légalement un acte qu'on lui donne une valeur éthique. Ce n'est pas parce qu'on l'autorise qu'on le valorise. Et réécouter le débat de Simone Veil qui est assez percutant, qui dit que l'avortement est une exception, doit rester une exception, et que tout l'enjeu de cette loi, c'est de faire en sorte qu'on ne croit pas que parce que l'on tolère cette exception, on l'encourage. Le problème, c'est qu'alors, il faut se donner les moyens de ne pas encourager l'acte, ou de ne pas risquer la banalisation ou l'usage abusif et les dérives de cette loi. Pourquoi? Parce que dans le champ libre que laisse la loi aux droits des individus, le champ est aussi laissé libre aux valeurs et aux capacités de distinguer ce qui va orienter notre manière de choisir et de vivre d'une manière ou d'une autre. D'où la conclusion assez douloureuse d'Alain Ehrenberg, de nouveau, qui montre comment le déplacement de la culpabilité à la responsabilité ne va pas s'embrouiller le rapport entre le permis et le défendu. Et je crois que si on veut être plus précis encore, le permis et le défendu, il est encore de l'ordre de la loi qui s'impose en quelque sorte aux individus. Donc ce qui est brouillé, c'est aussi le rapport entre ce qui est bon éthiquement et ce qui est problématique ou mal éthiquement. Donc comment on se donne les moyens de parvenir à ce discernement? Et en même temps, c'est extrêmement fort de rattacher cette conclusion au passage de la culpabilité à la responsabilité, parce qu'on sent bien que d'emblée, si on est responsable, on est d'emblée engagé à réinterroger le sens des actes que l'on pose. La culpabilité, elle ne vient pas réinterroger l'acte. Elle fait sentir qu'on est en désaccord, qu'on n'est pas en phase avec la loi, mais elle ne nous permet pas forcément de réinterroger l'acte. je peux le permettre dans certains cas quand l'obéissance nourrit celui qui nous l'impose, mais la responsabilité, elle, implique d'autant plus directement, me semble-t-il, cette capacité à réinterroger l'acte. De plus, il y a banalité quand le sens n'est pas... J'explicite ce que je veux vous dire par là. La banalité, c'est justement quand le sens n'est pas réinterrogé et que la responsabilité n'est pas investie, n'est pas assumée. Ce qui est banal, c'est ce que l'on considère ordinaire. L'avortement prend le sens de la contraception, par exemple, et devient un acte ordinaire lorsqu'il n'est plus considéré comme une exception que l'on a interrogée et qui requiert un discernement particulier. Donc Jean-Yves Goffi, dont je vous parlais, nous met en garde contre l'argumentation de certains qui voudraient voir une conséquence logique entre la dépénalisation et la banalisation. Il n'y a pas de conséquence logique. Mais en revanche, il y a un risque qui suppose cette réinterrogation du sens. Et c'est là que notre pouvoir de citoyen, mais aussi notre devoir, entre en jeu. Puisqu'il s'agit de donner du sens, mais aussi de prévenir les dérives et la banalisation. Deuxième et dernier enjeu, le retour à la singularité, qui nous permet de revenir aussi à la difficulté plus subtile que j'énonçais en introduction. Revenir à la singularité, c'est permettre que des lois que l'on a édictées au plan universel s'appliquent à des situations toujours singulières. Et il me semble que c'est cette perspective de l'accompagnement que j'évoquais qui permet ce retour à la singularité. Et qui permet donc d'appliquer les lois en les interprétant dans le cadre de chacune des situations. Les citoyens peuvent être partie prenante de cette application des lois, et non seulement les juges ou les praticiens, en tant qu'ils sont porteurs de ces actes et ont donc à les assumer, à en porter la responsabilité, mais en tant aussi qu'ils sont citoyens aux côtés d'autres citoyens, qu'ils peuvent accompagner de manière personnelle, la famille, les amis, mais qu'ils peuvent aussi accompagner en tant que chaque acte implique la vie de tous les autres. Implique la vie de tous les autres en tant que l'acte que je pose dans une société oriente cette société, impacte les citoyens de cette société, mais aussi si on veut revenir au niveau de l'humanité, en tant que l'acte que je pose en tant qu'homme et avec une visée éthique visant une vie authentiquement humaine, chaque acte que je pose dans cette perspective implique toute l'humanité. Bon, pardon, ça c'est assez complexe, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais c'est cette idée que l'acte que je pose n'a pas seulement sens pour moi, mais potentiellement pour tous les autres. Donc l'interprétation et l'application de la loi, elle est décisive pour cela. Et elle suppose une richesse personnelle et collective. Qu'est-ce que j'entends par richesse? Eh bien des ressources pour pouvoir discerner, mais aussi des convictions et une foi, et enfin une vie communautaire qui permet cet accompagnement et la possibilité d'interpeller ceux qui agissent. Et donc je voudrais terminer par une nouvelle image qui sera écho à la première et qui vous montrera la part personnelle qu'il y a derrière l'office de philosophe, qui est l'icône de l'amitié, qui est très chère à la communauté de Thésée notamment, où l'on voit l'amitié du Christ qui accompagne cet homme, donc qui accompagne potentiellement chaque homme, mais aussi chaque communauté, et qui l'accompagne avec une distance raisonnable, c'est-à-dire qui admet la liberté de cet homme et la singularité de sa vie. Il lui laisse un espace de liberté et de cheminement. Et en même temps, ce Christ, il épaule cet homme avec bienveillance. La bienveillance, c'est ce qui permet d'admettre les possibles pour pouvoir les considérer et choisir parfaitement librement. Il l'épaule aussi en restant présent, et la présence, c'est ce qui assure une stabilité de la décision, une fois qu'elle a été prise, donc d'assumer la responsabilité. Et enfin, il l'épaule ou il l'accompagne avec la lumière du livre qu'il porte. et de toute la connaissance, de toutes les ressources qui peuvent être apportées au discernement. Quant à l'homme, lui, il ne tient pas un livre, d'où le fait qu'il ait besoin d'interpellation et d'accompagnement, mais il a néanmoins, et tout de même, ce petit papier en main, qui sont ses ressources personnelles, et sur lesquelles il peut s'appuyer pour agir, mais aussi espérer. Et donc, qui nous permet, si on revient à notre rôle de citoyen, d'être acteur. Donc, pour conclure, je vous dirais que j'ai commencé par m'interroger sur la loi, puisque c'est ce qui apparaît en premier lieu dans ce débat bioéthique. Donc, sur ce processus législatif de la constitution des lois comme décision prise par tous et pour tous à propos d'un objet particulier, la vie, mais que cette recherche m'a révélé plutôt les pouvoirs en jeu dans le débat, mais aussi et surtout dans les pratiques. Les pouvoirs comme pouvoir d'intervenir, mais aussi pouvoir comme responsabilité. La question est alors peut-être moins frontalement que décide-t-on de la vie et de la mort, mais à qui donnons-nous ce pouvoir? Le pouvoir et donc la responsabilité revient à chacun en tant que personne dans sa vie, mais aussi en tant que citoyen dans la société, et sans doute en tant qu'ami aussi, si l'on donne un sens politique à cette amitié. Merci.